Genève Radio,
science et culture en partage.
Un siècle d'ingérence russe. Le 8 juin 2023, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, chargée d'étudier les ingérences étrangères, a rendu son rapport. Celui-ci a été rédigé après presque 5 mois de travaux et 87 heures d'audition. Ce rapport considère que la Russie est actuellement la principale menace en matière d'ingérence. Il analyse les procédés que ce pays emploie depuis plusieurs années à l'égard de la France et dans d'autres pays de l'Union européenne. Or, parmi ces procédés, plusieurs étaient déjà utilisés par l'URSS, voire par la Russie impériale. Il est donc intéressant de replacer ces pratiques russes dans une histoire plus longue, afin de mieux repérer et cerner ce qu'est la culture russe, celle d'aujourd'hui, celle d'hier, en matière d'ingérence et d'influence, et en quoi ces pratiques représentent un danger pour les démocraties, et comment ce danger peut être combattu. Ce dialogue a eu lieu entre Cécile Vessier, professeure en études russes soviétiques et post-soviétiques à l'Université de Rennes 2, Charlotte Prost, professeure de littérature comparée à l'Université de Poitiers et directrice du laboratoire Forelis, et Guillaume Bourgeois, professeur d'histoire politique et sociale du XXe siècle à l'Université de Poitiers. Cette rencontre a eu lieu le jeudi 28 septembre 2023 dans le cadre des Amphidélettres au présent, organisés en partenariat avec l'Espace Mendès France et l'UFR Lettres et Langues de l'Université de Poitiers et sous la direction scientifique de Stéphane Bicchiaro, professeur en langue et littérature française à l'Université de Poitiers, Raphaël Guidé, maîtresse de conférences en littérature comparée, et Anne-Cécile Guilbard, maître de conférences en littérature française et esthétique à l'Université de Poitiers.
Bonjour et merci d'être là. Donc, merci à Charlotte de m'avoir invitée, Madame Cross de m'avoir invitée. Merci à mon voisin de droite d'intervenir. Alors, je vous explique comment on s'est un peu réparti les choses. Donc, on va parler de l'influence de l'ingérence russe sur un siècle. Et moi, je vais d'abord vous faire une sorte de présentation de ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale, puisque à l'Assemblée nationale, une commission a été créée cette année, donc en 2023, pour réfléchir. Alors, l'appellation exacte est extrêmement importante. Donc, pour réfléchir aux ingérences politiques, économiques et financières, ça veut dire on ne parle pas de la culture, par exemple. Moi, j'en dirais un mot, mais la culture a été évacuée pour des raisons qu'on comprend, d'ailleurs. Mais j'en dirais un mot, en revanche, financière, c'est-à-dire ingérence financière. Est-ce qu'il y a de l'argent qui circule ? De puissances étrangères, et là ils ont précisé, État, organisation, mais aussi entreprises, mais aussi groupes d'intérêt, mais aussi personnes privées, des oligarques par exemple. Ces ingérences visant, précise la Commission, à influencer ou corrompre des relais d'opinion, des dirigeants ou des partis politiques français. Donc, si vous voulez, le nom même de la commission est extrêmement important parce que l'idée, c'est est-ce que des partis politiques, est-ce que des personnalités politiques, est-ce que des personnalités françaises sont influencées, j'hésite sur ce mot, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, ou agissent pour telle ou telle raison parce qu'elles sont manipulées sciemment ou, je dirais, moins consciemment, par des États et lesquels. Alors, cette commission a réuni toute une série d'experts, c'est-à-dire a auditionné toute une série d'experts qui étaient là à des titres divers. Donc, moi, j'étais là parce que en 2016, j'avais fait paraître ce livre « Les réseaux du Kremlin en France ». Qui a été le premier livre à relancer cette question. C'est-à-dire, c'est loin d'être le premier livre sur le sujet, mais c'est le premier livre qui relançait cette question de l'ingérence russe et qui a été suivi par d'autres, y compris par des livres faits par l'IRSERM. Donc l'IRSERM, c'est une institution publique militaire, y compris par le CAPS, c'est-à-dire une institution qui dépend du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Donc, vous voyez, des institutions quand même très, très sérieuses qui se sont penchées sur cette question. Et des manipulations, alors moi j'avais écrit que sur la Russie, des manipulations russes, mais aussi des manipulations notamment chinoises. L'IRSAM a beaucoup travaillé sur les manipulations chinoises. Et donc, ça en est arrivé en 2003 à cette commission donc, qui faisait venir des experts ayant travaillé sur le sujet, universitaires ou spécialistes de think tank, qui a fait venir aussi des personnalités politiques. Marine Le Pen a été entendue par la commission. Thierry Mariani, qui est aussi au Rassemblement national, a été entendu par la commission. Donc, si vous voulez, je crois qu'on a été plus de 40 personnes à être entendues. Ça a donné lieu à ce rapport que j'ai en version papier, que vous pouvez trouver sur le site de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, moi, je vous avouerai que je découvrais, en fait, les auditions. J'en avais toujours entendu parler, mais j'étais pas vraiment, j'avais jamais été auditionnée, donc j'étais pas vraiment au courant. J'étais un peu impressionnée par le caractère démocratique de cette procédure, sur laquelle j'ai par ailleurs des critiques, c'est-à-dire que toutes les auditions sont filmées. Vous pouvez tous avoir accès à ces vidéos sur le site de l'Assemblée nationale et écouter réellement ce que les gens ont dit. Toutes ces auditions sont rassemblées dans un deuxième tome où on a exactement ce que les gens ont dit. Je précise que quand on témoigne devant l'Assemblée nationale, on prête serment de dire la vérité. Ce qui va peut-être poser des problèmes, je dirais, à certaines personnalités politiques dont les propos me semblent avoir été démentis par certaines révélations de Mediapart. Mais enfin, bon, on va voir. Mais en revanche, vous ne pouvez pas être accusé de diffamation, etc. C'est-à-dire, vous pouvez être accusé si vous mentez, oui. Mais... vous êtes entièrement libre de vos propos. Normalement, il n'y a pas de procédure juridique possible, ce qui permet d'avancer aussi, bon, avec précaution et en respectant, je dirais, bien sûr, les droits de chacun, mais sur des questions, je dirais, qui sont délicates. Et la question la plus délicate que je n'aborde grosso modo pas dans mon livre, c'est la question de l'argent. C'est-à-dire que telle personnalité politique reprend les narratifs du Kremlin, c'est une chose. Est-ce qu'elle le fait par conviction ou est-ce qu'elle le fait parce qu'elle a reçu... Parce que, alors, elle a reçu un dessous de table de 100 000 euros ou parce qu'on est des civilisés, parce qu'elle a été, je ne vise personne, mais je pense quand même, elle a été invitée à donner une conférence en Russie qui lui était payée 300 000 euros. Si vous voulez, il n'y a pas une conférence qui vaut 300 000 euros, hein, si vous voulez, sauf sur l'invention de je ne sais quoi. Donc il y a des moyens de corrompre qui peuvent être différents, qui peuvent être délicats. Là, vous comprenez qu'il faut, et je sais qu'actuellement, il y a des structures de françaises de l'Assemblée nationale et notamment le contrôle financier qui sont en train de mener des enquêtes, notamment, par exemple, sur M. Mariani. C'est-à-dire, M. Mariani dit-il ce qu'il dit parce qu'il a des liens financiers avec la Russie ou parce qu'il est convaincu de ce qu'il dit. Donc, si vous voulez, c'est une étape extrêmement intéressante. Et c'est là, je fais un tout petit signe à mon voisin. C'est-à-dire qu'une des choses qui nous aide quand même beaucoup à comprendre ce qui se passe en ce qui concerne la Russie, et je reviendrai sur ce choix de la Russie, c'est que on n'est pas non plus complètement vierge. C'est-à-dire qu'on connaît aussi l'histoire de ce pays. Sa façon d'agir, la façon d'agir de ses services secrets, de sa culture politique, et que ça nous donne des indications, ça nous donne des pistes. Alors, encore une fois, ce sont des pistes, ce sont des éléments. On n'a pas tout à fait la même culture politique, mais ça peut nous donner des idées, on va dire. Alors, ce rapport de l'Assemblée nationale, je précise tout de suite deux choses. D'une part, les résultats, en très bref. Ce rapport dit explicitement et le répète que, je cite, « la France est la cible d'ingérence de la part de puissances étrangères ». C'est un fait, c'est plus une accusation, c'est un fait. D'autre part, Ce rapport affirme que la Russie est la principale menace pour les démocraties occidentales en termes d'ingérence, et je reviendrai sur le sens même d'ingérence. Il note qu'il y a des menaces venues de Chine, venues d'Iran, de Turquie, du Maroc, j'avoue que j'étais un peu étonnée, mais du Qatar, bon, le football, d'Israël, voire, mais de manière différente, des États-Unis, mais que la principale menace, c'est actuellement la menace russe. Et il analyse donc, sur la base de ce que les experts et témoins lui ont dit, les procédés utilisés par la Russie depuis plusieurs années pour influer de manière très concrète sur, je cite encore, les relais d'opinion, les dirigeants, les partis politiques. Je précise un deuxième point. C'est que ce rapport de l'Assemblée nationale a fait l'objet de controverses. Donc vous le trouvez sur le site, vous pouvez le lire. Il a fait l'objet de controverses, y compris au sein même de la commission. La commission le rédigeant. Pourquoi ? À la tête de cette commission, il y avait quelqu'un du Rassemblement national. Ce qui a permis de dire le Rassemblement national avait convoqué cette commission de façon à pouvoir se blanchir des accusations qui avaient suivi les annonces sur le prêt fait à ce parti par une banque franco-russe pleine d'anciens agents du KGB, pour être clair, comme la plupart des banques russes. On peut y revenir et sur le système bancaire russe actuel. Donc, à la tête, il y avait quelqu'un du Rassemblement national. Il a fait ensuite un énorme scandale en trouvant, et je vais vous dire, alors pour une fois, je suis d'accord avec le Rassemblement national, ce qui n'est pas... en disant que les compromissions d'autres partis, notamment gouvernementaux, avaient été minimisées. Et je vais vous dire, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que le Rassemblement national est absolument compromis dans cette affaire. Et il est compromis dans des histoires d'argent, dans des histoires de prêts, dans des histoires d'influence, c'est incontestable. Mais M. Fillon, qui était dans un certain nombre de conseils d'administration russes, de la même façon que l'ancien chancelier allemand, l'été, c'est-à-dire c'est lui qui a donné l'exemple quand même, Schröder. Schröder, et on parle en Russie de Schröderisatia, le pour dire, c'est on achète des personnalités politiques. Bon, c'est Schröder qui a donné l'exemple, mais il y en a d'autres qui ont suivi, notamment M. Fillon. Donc ça pose un problème, parce qu'on se dit c'est la droite républicaine, mais c'est une droite républicaine qui, alors lui dit je n'ai pas touché d'argent parce que la guerre a commencé, mais normalement il devait toucher de l'argent. Donc est-ce qu'on peut laisser faire ça? Et quand on le voit tenir certains propos sur M. Poutine, ça pose des questions. On a vu M. Sarkozy, quand je parlais des conférences à 300 000 euros, c'est M. Sarkozy. Il y a une enquête du parquet financier sur lui, une sorte de contrat à 3 millions d'euros. C'est-à-dire, ouais, il y a énormément d'argent qui circule, pas que chez les politiques, on verra, je dirais, dans d'autres secteurs, mais on sait maintenant qu'il y a qu'il y a de l'argent qui circule et dans plusieurs domaines. Et moi, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le Rassemblement national. Oui, le Rassemblement national pose un problème pour se lier avec la Russie, mais il n'est pas le seul. Et deuxièmement, disait ce président, dont les notes ont été d'ailleurs publiées dans le rapport, il dit « on a minimisé les influences d'autres pays ». Alors, c'est possible, ça je n'en sais rien, moi je ne suis pas spécialiste, moi je suis spécialiste de la Russie, donc je ne peux pas vous dire si on a minimisé les influences de la Chine, du Qatar, etc. C'est pas impossible. En tout cas, lui, c'était son avis. Et effectivement, on remarque que pour la Russie, des procédés qui ont été relevés existaient déjà au XXe et au XIXe siècle. Alors, je voudrais quand même, auparavant, après je laisserai la parole peut-être à mes camarades. Non, peut-être. En fait, là, je vous dis, là, moi je fais le présent et puis ensuite eux, ils font un peu le rappel historique. Mais je voudrais rappeler sur une notion où, en fait, je suis restée sur ma faim. C'est-à-dire que le rapport insiste beaucoup sur la différence entre ingérence et influence. Et l'influence, grosso modo, on peut dire que tous les pays en font. C'est-à-dire que la France, par exemple, organise des festivals de cinéma partout dans le monde, c'est aussi pour se créer une bonne image, pour que des gens apprennent le français, pour que des gens viennent faire du tourisme en France. Donc l'influence, c'est se créer une image d'une manière ou d'une autre. Les États essaient de se créer une image positive. Le résultat peut être un peu différent. Alors, on se rend compte que, bien sûr, que la Russie exerce une influence, et très consciemment. C'est-à-dire que quand la Russie fait des festivals de cinéma, qui en plus, en général, sont coordonnés depuis des structures dépendant de l'ambassade, oui, c'est pour se créer une image. Mais je dirais, comme la France. Quand la Russie ouvre une église en plein Paris, c'est un type d'image qu'elle veut donner. Je vous rappelle qu'autour de, et là je ne m'engagerai pas sur la question, mais autour de cette église créée en plein Paris, il y a eu quand même un certain nombre de rumeurs, et je vois qu'elles reviennent et qu'elles sont dans le rapport d'ailleurs, d'écoute réelle des ministères qui sont tout autour. Hein. Donc, Strasbourg, mais quand il y a eu des scandales autour de je ne sais plus quoi, mais en tout cas de la Crimée, qui ils ont commencé par virer ? Ils ont commencé par virer le consul de Russie à Strasbourg, qui recevait tellement bien les départements de Russes, et on le savait. Et effectivement, où est-ce qu'ils avaient construit une autre église ? C'était à Strasbourg, parce qu'il y avait...
En face des institutions européennes.
Toutes les institutions européennes. Bon, faut pas être dupe, hein, je veux dire, faut pas... Et c'était, quand ils ouvrent une église, et Dieu sait que j'ai absolument rien contre mais je veux dire, même si y a une guerre au couteau qui se mène actuellement dans l'orthodoxie russe à l'étranger. Une guerre au couteau, et c'est là où il faut ouvrir les yeux, c'est-à-dire que... Et là, on passe, vous voyez, on balance de l'influence. Bon, nous sommes des gens... nous ne sommes plus des communistes, c'est ça que ça veut dire. Hein. Nous ne sommes plus des communistes, et nous sommes des chrétiens, et nous défendons les valeurs familiales. Donc, ça attire effectivement des gens, je dirais, on va dire, une certaine droite française, mais pas agressive, pas... quand on les met devant les institutions européennes, je suis d'accord qu'on balance sur autre chose. Actuellement, des collègues russes dans l'immigration qui viennent de sortir un rapport pour dire le FBI a repéré un prêtre qui était chargé par le FSB, donc par les services secrets russes, de recruter des collaborateurs du FSB. Parmi les prêtres, parmi les gens présents dans les églises, et je peux vous dire que ce débat-là, il se mène dans l'église orthodoxe russe de France depuis plusieurs années, avec des combats au couteau. Allez voir à Nice le combat autour de la cathédrale qui a été récupérée par, entre guillemets, Moscou, face à une deuxième église qui existe aussi et qui est gardée par des anciens de l'émigration post-révolutionnaire, ils en sont, mais littéralement, au couteau. Juste pour vous donner un exemple, à Nice, vous avez un ravissant cimetière russe qui date de la fin du 19e siècle. Les Russes de Moscou, j'emploie le vocabulaire qui est là, ont décidé de le récupérer. Le prêtre est monté et a mis un cadenas sur la porte en disant « c'est à nous ». Les anciens de l'immigration sont arrivés, ont fait sauter le cadenas et ont mis un message. Ici, ce n'est pas la Crimée, ce cimetière n'est pas à vous. Pour vous dire, vous voyez, quand je dis c'est au couteau, c'est exactement ça. Et pourquoi ? Parce que si vous contrôlez une église, vous contrôlez les croyants. Vous allez contrôler ce qui est bien, ce qui est mal. Vous pouvez avoir des informateurs. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait pendant toute la période soviétique. Je ne sais pas si ça se faisait au 19e, Mais j'imagine, hein, mais toute la période soviétique, ça s'est fait de cette façon. Et c'est là où vous voyez que de l'influence se crée une image. On balance vite vers l'ingérence. Et l'ingérence, c'est quoi? Je reprends les termes de l'Assemblée nationale. C'est l'intervention d'un État dans la politique intérieure d'un autre État. Ce sont des mesures visant à déstabiliser un pays, à saper la confiance dans les institutions d'un pays, à engendrer la confusion entre le vrai et le faux. Donc c'est forcément quelque chose de négatif. Ça peut avoir quel but? Alors ça, nos collègues, y compris russes, ayant vécu en Grande-Bretagne, nous disent... les Russes ont financé le parti conservateur. Les Russes ont financé des mesures permettant d'aboutir au Brexit. Pour nos collègues émigrés russes, c'est très clair que c'est la même... Bon, c'est pas suffisant, c'est-à-dire que c'est pas juste Moscou. Ça pourrait pas marcher si c'était tout seul. Mais c'est très clair qu'il y a eu la main de Moscou dans le Brexit. Et je vais vous dire quelque chose, par exemple. Donc moi, j'avais sorti ce livre... Et il y a eu, alors que je ne me trompe pas dans les dates, mais juste en tout cas à la sortie de ce livre, je suis contactée par des collègues écossais qui me disent, on a vu que vous avez sorti ce livre, est-ce que vous pensez que c'est un hasard si Spoutnik ouvre une antenne précisément à Édimbourg ? Alors qu'on est en train de débattre des possibilités de prendre notre indépendance ou pas. J'ai répondu, écoutez, je ne connais rien au problème de l'Écosse, mais à mon avis, ça n'est pas un hasard. C'est-à-dire que s'ils s'installent là, c'est qu'ils ont l'intention de jouer sur le débat politique. Et là, si vous voulez, moi, que l'Écosse soit indépendante ou qu'elle ne soit pas indépendante, franchement, ce n'est pas mon problème et je n'ai aucun avis sur la question. Mais que ce soit des gens au Kremlin qui décident d'influer dans un sens ou dans un autre, ça, c'est de l'influence, c'est de l'ingérence, et c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Or, c'est ce qui se passe actuellement, depuis des années, dans l'Union européenne, pour saper la démocratie, pour saper la croyance en l'Union européenne, pour essayer effectivement de déstabiliser les démocraties. Alors vous savez, quand on disait ça, par exemple en 2016, on nous disait « Oh, mais vous êtes parano, mais vous êtes russophobe ». Regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Qui est-ce qui aurait dit qu'on pouvait avoir une guerre avec des bombardements d'un État voisin qui n'est en rien un État nazi, qui est un État pacifique, qui est un État où tout le monde parle russe, qui est-ce qui aurait cru ça? C'est-à-dire, voyez, moi, effectivement, je suis prof de russe, je suis prof de culture russe, d'histoire russe, de géopolitique russe, de tout ce qui a un lien avec la Russie, au XXe siècle, XXIe. Cette guerre n'a aucun sens. Au Kremlin, actuellement, vous avez des gens qui ont une soif de destruction énorme et qui utilisent des procédés déjà utilisés par le KGB, déjà utilisés par le NKVD, déjà utilisés par les services secrets russes au 19e. Non pas pour améliorer la vie des citoyens de leur pays, mais pour détruire la vie des voisins, que ce soit en Ukraine ou en Europe. Donc autant en avoir conscience. Je vais vous donner quelques exemples en France. Quand l'Assemblée nationale a organisé cette commission, donc je suis convoquée, je commence à regarder un petit peu ce qu'il y a sur le site. J'ai trop parlé, c'est ça?
14h28.
Non. Bon,
on a le temps encore.
Mais ça va. Toi, le temps, je regarde.
Vol, si j'ose dire.
Je regarde. Après, je lui laisse la parole. Je regarde sur le site de l'Assemblée nationale, planté. Le site du Sénat, planté. Si vous voulez, il ne faut pas me faire un dessin pour que je comprenne. Quand ils me mettent... En plus, ils le mettaient noir sur blanc. Hein, ce n'était pas où nous avons un problème technique. C'était nous sommes en but à des attaques malveillantes. C'est un petit coucou, les gars, on est là, on vous suit. C'est un petit message, quoi, je veux dire. On le prend tel quel. Alors, on peut se dire, OK, c'est un petit message, on va le prendre avec humour. Sauf que quand vous avez des attaques de hackers... qui ont pour but de récupérer des données informatiques et de les instrumentaliser avant une élection. Là, c'est une façon directe de peser sur une élection. Or, je ne parle pas dans le vide, c'est exactement ce qui s'est fait aux États-Unis avant l'élection de M. Trump, où les mails du parti démocrate ont été saisis, ont été instrumentalisés, et ça vous revient dans tous les réseaux complotistes encore maintenant, en disant qu'il y avait des histoires de pédophilie dans une pizzeria, etc., et c'est pour ça qu'il ne fallait pas... Non, mais attends, on a les mêmes en France. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas voter pour Hillary Clinton. On a eu la même chose en France avant l'élection de 2017. Et l'avantage en France, c'est qu'ils étaient... Bon, d'une part, ils étaient sur leur garde, ils étaient prévenus. Donc, ils s'attendaient. Donc, ils ont pu recevoir le truc. Et ça s'est fait, alors, à la fois habilement et malhabilement, c'est-à-dire que ça s'est fait 2 jours avant l'élection. Pourquoi 2 jours avant l'élection? Parce qu'ils avaient tablé sur le fait que le dimanche, la presse, plus personne n'avait le droit de dire quoi que ce soit sur l'élection. Donc, ne pouvait contredire les choses. Et en même temps, ça a bloqué la diffusion parce que des gens s'attendaient, donc avaient déjà préparé le terrain. C'est-à-dire que ça n'a pas eu un impact réel sur l'élection. Mais il n'empêche qu'il y a eu cette volonté d'ingérence. Actuellement, vous avez des experts qui imaginent quelque chose qu'on voit se produire d'une certaine manière en Ukraine, à une autre échelle. Imaginez que demain matin, il n'y ait plus d'électricité, il n'y ait plus d'eau, il n'y ait plus d'Internet. Vous imaginez la panique que ça va être. C'est-à-dire qu'il suffit de couper tous les câbles. Ça, les experts de sécurité travaillent sur cette hypothèse en disant une guerre, ce n'est pas forcément un bombardier qui arrive et qui va vous envoyer des bombes. Ça peut être ça, c'est ça en Ukraine. Mais c'est aussi, il va vous envoyer une bombe sur vos câbles. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des grands débats autour des câbles sous-marins, des câbles Internet sous-marins? Eh bien, imaginez que demain, vous n'avez plus Internet. Je veux dire, quand vous n'avez plus Internet pendant 2 heures, vous comme moi, je veux dire, on est déjà paniqués en se disant comment j'arrive à joindre. Donc, effectivement, ce sont des réalités. Alors, juste avant de passer la parole à mon voisin, je noterai juste de manière un petit peu pédagogique et didactique, qu'est-ce qu'on classe parmi les moyens d'ingérence, c'est-à-dire les moyens vraiment d'avoir un impact et un impact négatif sur un autre pays? Eh bien, ce sont les cyberattaques, en premier lieu. Donc, aussi bien pour récupérer des informations qu'éventuellement pour couper, je vous dis, l'Internet. C'est la désinformation. La désinformation, alors, il y a ce qui est évident, c'est-à-dire Spoutnik et RT, je pourrais vous en parler pendant des heures, où on vous présente une réalité qui n'est jamais entièrement fausse, mais qui est quand même toujours présentée d'une manière très spécifique. Ça n'est pas que ça. C'est-à-dire que la désinformation, elle passe par des tas de canaux. Je disais, elle existe, elle est très forte en Russie, malheureusement. Je disais, j'ai passé le week-end à étudier un manuel d'histoire pour les enfants de terminale. En Russie, c'est de la désinformation, mais de A à Z et de Z à A pour leur... Mais vraiment, c'est une catastrophe, si vous voulez, pour leur formater la tête. Et il faut qu'on le sache, parce que la désinformation, enfin, un des gros points de la désinformation dans ce manuel, c'est de dire tous les problèmes en Union soviétique et en Russie depuis 1945, c'est la faute de l'Occident. Donc, si ensuite vous voyez des gosses, vous savez, comme on voyait en Union soviétique, qui sont à la fois fascinés par l'Occident et qui se méfient, qui voient en nous des ennemis et non pas des partenaires avec qui on peut discuter, ben ça sera aussi ce manuel. En France, on a des sites qui sont spécialisés. Quand je vois, par exemple, un blogueur reçu par le ministère des Affaires étrangères à l'ambassade de Russie, alors qu'il ne cesse depuis des années de déverser de la propagande pro-Kremlin, et moi je dis bien pro-Kremlin, pas russe, pas pro-russe, je comprends que visiblement ils ont des intérêts communs. Je peux vous dire qu'il y a des éditeurs qui ont eu des propositions financières de l'ambassade de Russie pour publier certaines choses. Je peux vous dire que certains ont accepté, certains ont refusé, mais certains ont accepté. On a des opérations d'espionnage, bon, je dirais entre guillemets classiques, avec des recrutements, des tentatives de recrutement. On a des recrutements de ce qu'ils appellent des porte-voix, c'est-à-dire, et alors là, on va voir, on va crouler sous les exemples, des journalistes. vous avez un journaliste qui tombe amoureux d'une magnifique jeune fille russe. Et vraiment, il est amoureux. Non, ça fait courant, ça fait tellement, c'était d'une telle banalité. Et puis là, justement, et elle le convainc que, ah non, non, mais en Russie, tout est merveilleux, et c'est les Occidentaux qui ne comprennent pas, etc., etc. Et puis, vous lui graissez un tout petit peu la patte. Vous allez lui donner un petit peu d'argent, comme ça s'est fait au XXe siècle. Et on a les exemples, on a les archives. Le maintenant, où on peut vous dire, on les a pas toutes, hein, mais on peut vous dire, tel journaliste, éventuellement d'ailleurs de droite, pas forcément du Parti communiste, était payé. Il était payé, ce n'était pas par conviction, il était payé. Donc ça, oui, ça se refait. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui vous balancent les narratifs de Moscou sont payés? Pour certains d'entre eux, oui. On achète des politiciens. Alors, je vais vous donner juste deux exemples que j'ai rappelés devant l'Assemblée nationale, parce que c'était vraiment une des questions, je pense, primordiales. Monsieur Bayrou, qui est au centre, a déclaré vers 2002, quelque chose qui n'était pas tombé dans loin de mon oreille, que des Français lui avaient transmis la proposition de Russes qui voulaient financer sa campagne. Bayrou, donc c'est le centre, hein, c'est ni l'extrême droite ni l'extrême gauche, l'a dit lui-même. Il a dit, non, j'ai refusé, je ne pourrais même pas vous dire exactement qui étaient ces Russes puisqu'ils passaient par des Français. J'ai refusé, mais il me proposait le financement de toute ma campagne. C'est-à-dire que quand ensuite vous voyez Marine Le Pen qui reçoit son prêt juste avant les européennes, vous vous dites, ben, on va regarder si effectivement elle rembourse son prêt. Et vous savez que son prêt, elle a vraiment tardé à le rembourser. Et que depuis que c'est public, oui, ah, elle a tout remboursé du jour au lendemain, quasiment. Depuis que c'est public, et parce qu'il y a les présidentielles en vue. Je vais vous donner un autre exemple qui a été sorti par un journaliste dans un livre. L'adjoint aux questions militaires et aux questions internationales de M. Mélenchon, l'ancien adjoint à M. Kouzmanovitch, qui maintenant est à la tête d'un tout petit parti soi-disant souverainiste. Donc souverainiste, c'est on est les maîtres chez soi. Bon. Et moi, j'avais remarqué que oui, il avait un discours pro-Kremlin en permanence. Il m'a fait un procès qu'il a perdu. Il est allé en appel, il a perdu. Mais j'étais pas la seule à l'avoir remarqué qu'il tenait un discours pro-Kremlin. C'est pas interdit en France, hein, de tenir un discours pro-Kremlin. C'est pas interdit, c'est pas illégal. Mais comme j'étais pas la seule à l'avoir remarqué, eh ben, l'attaché militaire, c'était avant la guerre, avant 22, l'attaché militaire de l'ambassade russe est allé lui proposer 500 000 euros. À l'époque où il était l'adjoint de Mélenchon, donc il y avait toute la LFI derrière. 500 000 euros pour collaborer avec eux. Donc lui dit, j'ai refusé. À l'époque, j'étais pas la seule, le GRU n'était pas la seule, c'est-à-dire qu'il y avait les services secrets qui le suivaient pas français, pour vérifier en disant il y a des problèmes. Donc ça veut dire que les services secrets français sont quand même alertés. Mais ça veut dire, vous voyez, lui l'a dit à ce journaliste en disant, voilà, on m'a proposé 500 000 et j'ai refusé. Combien ne l'ont pas dit? Combien ont accepté? Je ne pense pas que ça soit toute la classe politique, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. Dans un contexte où malheureusement la Russie, qui par ailleurs est un pays que j'aime, mène une guerre criminelle contre l'Ukraine, menace ses voisins comme la Géorgie, a des actions d'ingérence absolument visibles en Géorgie, tue tous les jours des hommes, des femmes, des enfants, et même une action globalement négative, y compris pour ses propres populations. Et vous savez comme moi que plus d'un million de Russes a quitté la Russie depuis le début de la guerre, que la plupart des gens qui ont quitté la Russie sont des gens jeunes, des gens bien formés, des spécialistes d'ordinateurs, de tous ces trucs-là. Non, e-économie, etc. Mais je veux dire, des gens qui apportent de la plus-value à un pays, vous voyez, des gens qui préparent l'économie de demain, des gens sur lesquels on comptait en se disant, bon, ok, monsieur Poutine, c'est un ancien du KGB, mais il y a cette jeunesse qui est différente, qui est ouverte vers l'étranger, qui parle des langues, qui est bien formée, etc.
Qui a été formée en partie à l'étranger aussi.
Et formée en partie à l'étranger, ou formée, vous savez, ou formée dans
en
des
Erasmus,
bons...
Tout ça,
voilà. dans des bons établissements en Russie, il y a eu des très bons établissements en Russie. Moi, mon cœur s'est brisé. Je me suis dit, mais quelle décadence. Il y avait, non, je vous assure, c'est pas... il y avait un très, très bon établissement à Moscou qui s'appelait la Vyshka, la Vyshka Shkola Ekonomiki. Et tous les établissements européens voulaient collaborer avec elle. Il y avait les meilleurs enseignants, il y avait les meilleurs étudiants, ils étaient ouverts, ils faisaient des... Bon. Et cet établissement, on l'a vu sous nos yeux. D'abord, ils ont remis des tchéquistes, c'est-à-dire des gens du KGB, chargés de surveiller les profs. Ensuite, ils ont mis des cafards parmi les étudiants, c'est-à-dire vous venez... Alors moi, vous pouvez y aller, hein, je vais vous dire. Vous venez à mon cours et ensuite, vous allez faire votre rapport. Madame Vessier a dit que M. Poutine était un âne. Mais nous, on rigole en France, ça n'a aucune conséquence politique. En Russie, ça en a. C'est-à-dire que des enseignants, beaucoup de nos collègues, des gens doués, publiants, intéressants, ont quitté la Russie. Parce qu'ils craignaient, parce qu'ils ne voulaient pas avoir des problèmes. Ils ne voulaient pas se retrouver en prison pour 8 ans.
Ou ont perdu leur poste aussi.
Ou ont perdu leur poste, ou ont été forcés de démissionner, et donc sont partis parce qu'à un moment, ils doivent manger aussi, quoi. Et cet établissement a été mis sur la liste des sanctions canadiennes. Parce que, et je me disais, bon, c'est la première fois qu'il y a un établissement universitaire qui doit être un lieu de pensée, un lieu de discours, un lieu où on n'est pas d'accord, mais un lieu où on échange, qui est mis sur une liste de sanctions. Et ça me tord le cœur, mais d'une certaine manière, je le comprends. Parce qu'ils ne font plus de l'éducation, ils font de l'endoctrinement actuellement à la Vyshka. Donc, si vous voulez, on est dans un contexte où les gens qui aiment la Russie sont encore plus déchirés que ceux qui se disent depuis toujours que, de toute manière, c'est un repère de KGBistes. Mais bon, enfin, je ne sais rien. Je veux dire, je regarde juste pour voir s'il ne perd pas patience. Mais en tout cas, des procédés de cet ordre sont utilisés, visent nos démocraties. Et ces procédés, vous allez voir la transition magnifique, ont déjà été utilisés au XXe siècle, à l'époque soviétique, voire au XIXe, ce dont va vous parler mon voisin.
Oui.
T'as même le droit d'avoir le micro.
Merci beaucoup, chère Cécile. Je ne voulais rien d'interrompre. Là.
J'ai senti l'impatience.
Non, ce n'est pas du tout de l'impatience, c'est de la passion, au contraire. Combien de temps encore ça va durer qu'on en profite? Alors,
parle dans le micro.
Oui, je parle dans le micro. Non, une anecdote déjà pour faire le lien entre le présent et le passé. J'ai un ami, qui n'est pas un ami très très proche, mais il avait été un étudiant de mon père. Et voilà, garçon, bonne famille, de droite, très bon catholique, très milieu, vous voyez... comment ça s'est appelé? La manif pour tous, voilà. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'apprends que... Oui, il apprend le russe d'une manière vraiment très, très assidue et qu'il a l'intention de travailler avec les Russes. 2 ans après, il est chez Rianovosti. Rianovosti, c'est une agence, disons, de presse à vocation plutôt intellectuelle, scientifique, littéraire et autres. Et puis... je le vois assez peu. Un beau jour, il m'appelle et me dit, Guillaume, tu sais, il va y avoir un référendum en Crimée et on va faire un comité international d'observation du processus électoral. Je pense que ça t'intéresserait beaucoup d'y aller. Bon, oui, moi, je suis prêt à aller en Crimée, mais peut-être pas pour faire un comité d'observation d'élections truquées. Alors, il me dit, oui, tu sais, là-bas, tous nos frais seront pris en charge, mais dans l'immédiat, on ne peut pas financer le billet, on sera remboursé après. Écoute, je lui dis, je te donnerai ma réponse ce soir. J'en discute un petit peu avec des amis. Ils me disent, surtout, il n'est pas question que tu mettes ta main là-dedans. Tu vas être entraîné dans quelque chose qui ça sera une manière de te tenir, quoi. Ce garçon quelques temps après, il n'était plus à rien à Novosti, il était devenu l'un des responsables d'un grand magazine, news magazine hebdomadaire français, dont je dis simplement les initiales, VA. Hein, et il est le numéro 3 ou 4 de la rédaction de VA. Bien. Voilà, donc vous voyez, les choses se font comme ça. Et lui, il est monté dans la hiérarchie d'une certaine façon des agents d'influence. Et moi, bon, bah, il aurait pu me prendre dans son service, quoi. D'autant, en plus, je suis un spécialiste des services. Alors, bon. Mais alors, il faut comprendre dans tout ça, effectivement, il y a un arrière-plan. Tout ça ne date pas de M. Poutine, ne date pas de M. Staline, ne date pas de M. Lénine, ne date pas de Nicolas II, ne date pas d'Alexandre III. C'est beaucoup plus ancien. On pourrait presque penser à la grande Catherine, que les manipulations de son ministre Potemkin amusaient beaucoup. Enfin, elle y croyait, d'ailleurs, en partie, vous savez, les fameux villages Potemkin, où on crée des réalités qui ne sont pas, quoi. C'est un pays, hein, où le mensonge a toujours été utilisé comme, bon, comme une arme, et d'ailleurs... Est-ce que c'est vraiment vrai, mais est-ce que c'est vraiment faux? Voilà, il y a un arrière-plan en Russie, dans toute la pensée russe, qui est celui de la manipulation de la nature humaine, voire de sa corruption potentielle, comme faisant partie du jeu politique. Voilà. Alors évidemment, il y a aussi un autre passé et passif, qui est celui de cette bureaucratie toute puissante, et puis au cœur de la bureaucratie toute puissante, et d'une certaine manière comme aiguillon, la police politique. Il existait une police politique, l'Okhrana, du temps du tsarisme, dont la Tcheka, puis la GPU, NKVD, et tous ses descendants, le KGB, le FSB, etc., ne sont que la... Voilà, c'est une matrice, quoi, qui n'a jamais cessé...
Avec beaucoup plus de sang à partir de...
Bien sûr, évidemment.
Avec beaucoup plus
oui.
de sang.
L'Okhrana, ouais. c'était des gentils ouais. méchants, ouais. à côté des super méchants, ouais. bon...
C'est vrai qu'ils ne massacraient pas par milliers de personnes.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est... Si la nature criminelle du projet n'est pas la même, le bilan humain n'est pas le même... Ouais. Il n'empêche que ça existe toujours dans l'inconscient politique. Ouais, c'est ce que je veux dire. Bon, qu'est-ce qu'on a vu comme ingérence à travers le temps? Bon, il y en a eu une quantité considérable au XIXe siècle. Il y en a une qui est plus connue que les autres. Vous savez que la Russie, c'est un pays très riche. C'est le pays le plus riche du monde. Hein, mais c'est un pays extrêmement riche qui est tellement mal mis en valeur qu'il a le PIB de l'Espagne aujourd'hui. Mais... Bien sûr, la Russie a toujours eu des mines de diamants, des mines d'or, des évidemment du pétrole, du charbon, du bois,
du gaz.
En quantité tout à fait considérable. Ouais, c'est un pays qui est très mal mis en valeur et d'une certaine façon, ça a continué malgré le fait que des infrastructures ont été construites, etc. Donc, à la fin du 19e siècle, et dans le cadre d'une politique en France, qui a été conduite par Théophile Delcassé, qui était l'homme d'une certaine façon, qui, vous savez, préparait ceux auxquels il fallait penser tout le temps, mais n'en parlait jamais. La revanche, avoir un solide allié à l'Est le jour où on referait la guerre à l'Allemagne, bon, cette politique, qui a été une politique volontariste d'entente avec le régime tsariste, politique de la République française, hein, qui était, à ce moment-là, on peut dire, l'un des États les plus progressistes du monde. Mais cet État le plus progressiste du monde, pour des raisons géopolitiques, était allié avec l'un des États les plus réactionnaires, et on peut dire rétrogrades, archaïques, en tout cas politiquement, de la planète.
Il y a des super caricatures d'un ours avec Marianne sur les genoux.
Voilà, oui. Et bien donc... les Russes avaient besoin qu'on investisse massivement chez eux et c'était peut-être d'autant plus difficile à faire avaler que la Russie était déjà un pays très endetté. Bon, eh bien, donc, le capital français, il est arrivé massivement à travers, vous savez, ce qu'on appelle les emprunts russes, c'est-à-dire vos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents ont massivement investi dans telle mine d'or, dans tel chemin de fer sibérien, dans telle compagnie d'extraction et de transport de charbon, etc. Et tout ça s'est envolé en 1917, car les bolcheviks ont refusé, évidemment, de reconnaître cette dette qui avait été contractée par l'emprunt, par les tsaristes à l'extérieur. Quelques années plus tard, on a appris que tout cela avait été organisé, en fait, sur la base de campagnes de presse qui étaient des campagnes de presse truquées, hein, des campagnes de presse où on faisait dire... aux journalistes ce que la Russie, ce que les autorités financières russes avaient envie d'entendre, comme quoi le pays était tout à fait dans une marche de progrès continu, comme quoi la rentabilité de telle structure était considérable. Et cette publicité éditoriale, ces mensonges, ces campagnes, étaient achetées, en fait. Elles étaient achetées contre quoi ? Contre des abonnements qui étaient payés par centaines, voire par milliers, par de la publicité qui était vendue extrêmement cher, enfin, qui était, oui, vendue extrêmement... Non, la publicité qui était... bref, des campagnes de publicité.
Beaucoup d'argent apporté pour de la publicité dans la presse.
Voilà, je crois que tu as dit les choses encore mieux que je ne les aurais dites. Voilà, donc acheter la presse, c'était quelque chose de tout à fait possible. Et en 1931, une brochure est sortie à la Librairie du Travail, qui était l'un des éditeurs du Parti communiste français, qui était signé d'un certain Rafalovitch. Rafalovitch était l'un des conseillers secrets du baron de Witt, qui était le ministre des Finances russe. Et c'est lui qui avait, agencé tout cela au fil des années. Pendant 10 ans, il avait acheté les journaux français. Et vous voyez, le 9 mars 1908, il envoyait un télégramme à Moscou. Il disait « Une chose extrêmement curieuse, c'est l'attitude d'une partie de la presse en France qui veut à toute force obliger la Russie à emprunter. Quelques-uns le font par conviction, dans l'idée que le moment actuel est meilleur que l'automne. La plupart y poussent parce que le besoin de vivre et de toucher de l'argent les y accule. Il n'y a pas de publicité payante, l'emprunt russe en donnera. » Voilà. Oui, donc, voilà, il y avait des placards qui sortaient achetés de la mine, telle mine sibérienne, et ce placard, il était acheté au-delà, évidemment, des prix du marché. Énormément de journaux ont été achetés, aussi bien d'ailleurs des journaux de gauche que des journaux du centre, oui, que des journaux de droite, le Parti radical n'ayant pas été épargné dans cette affaire. Voilà. Bien sûr, pour les bolcheviks, c'était une manière de se défausser de toute, de toute la malfaisance du régime précédent. Or, ils ont à peu près fait exactement la même chose eux-mêmes lorsqu'ils se sont emparés du pouvoir, puisqu'à partir du moment où la Russie devient la Russie soviétique, puis l'Union soviétique, le gouvernement soviétique, le gouvernement de Moscou, va dépenser des sommes absolument considérables pour sa politique, dans le cadre de sa politique étrangère, et des sommes considérables à travers ces, ces pratiques de manipulation et de corruption du personnel politique. Quand j'étais à Moscou, peu de temps après justement la fin du régime, au début des, en 90, en 91, et qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là ? Les Russes découvraient les sommes faramineuses qui avaient été investies à l'étranger, encore une fois, soit pour acheter des gens, soit pour financer des partis communistes ou d'autres partis. Ils disaient, mais quand on pense que nous, on s'est privé, comme on s'est privé en Russie, alors qu'il y avait des milliards de dollars qui partaient à l'étranger, c'est un cauchemar. On se rend compte du caractère tout à fait...
C'est la même chose aujourd'hui. Hein. Si tu vois Schröder qui reçoit des sommes énormes, alors que les retraités russes, ils vivent avec rien.
Oui.
Oui.
Mais... Je peux te couper deux secondes. Non, on était d'accord hein, pour se compléter. Vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ce moment de 91-92 et ses publications, je m'en souviens très bien et je suis allée les revoir peut-être 10 ans plus tard pour me dire est-ce que c'est moi qui ai rêvé ou etc. C'est-à-dire que le Parti communiste français nous a dit pendant 70 ans qu'il vivait, tu m'arrêtes, hein, parce que qu'il vivait grâce à la vente du muguet le 1er mai et qu'il ne touchait, non mais c'est vrai, hein, et qu'il ne touchait pas d'argent de la part de l'Union soviétique. Et quand des gens, notamment dans les années 70, des gens qu'on a connus, des gens comme, comment s'appelait Thierry
Volton,
qui a été un des premiers à écrire là-dessus, qui s'est fait insulter, dont la femme était soviétique justement, et lui expliquait les choses, quand on disait non, le Parti communiste reçoit de l'argent de Moscou, on se faisait traiter de tous les noms. Et je revois ces publications qui sont apparues. Il y a eu une période très brève en Russie, je dirais même presque avant la chute de l'URSS et juste après, c'était vraiment 90-91, quand ils ont publié, je crois que c'était dans Aganiok, effectivement les sommes qui étaient versées à tous les partis communistes du monde entier, y compris Parti communiste français. Et c'est vrai que c'était des millions et c'est vrai que c'était publié. C'est-à-dire que tout ce qui nous avait été raconté, je dirais, avait la même fiabilité que quand actuellement le Rassemblement national nous dit « mais non, pas du tout, c'est un prêt tout à fait normal, dans des conditions tout à fait normales ». C'est-à-dire que le mensonge, on l'a vu, les Russes l'ont vu, et effectivement la réaction des Russes, c'était de dire « mais on crève de faim, on n'avait rien dans les magasins, et ils donnaient des millions au Parti communiste et au mouvement révolutionnaire ». C'était juste pour confirmer.
Merci infiniment. Alors, du coup, ça va m'éviter de dire un certain nombre de choses.
Tu pourras en dire d'autres.
Oui. J'avais une transition, mais alors elle m'a complètement échappé. En tout cas, ce qui est vrai, oui, la transition, c'était celle-là, justement. En 90-91, et surtout en 91, les Russes ont commencé à ouvrir leurs archives.
Oui.
Et bon, moi je me souviens, j'avais le droit, y compris, d'aller dans les magasins avec les archivistes. Ils me disaient, la prochaine fois que vous venez, vous apporterez des ampoules, parce qu'effectivement, il n'y avait plus une seule ampoule qui fonctionnait dans les magasins. Donc les magasins, vous savez, d'archives, c'est toujours noir. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Très vite, on s'est rendu compte, les soviétiques, enfin les post-soviétiques se sont rendus compte que toute cette histoire, qui était l'histoire justement de la corruption qui avait été pratiquée par le régime stalinien et post-stalinien, c'était pas bon pour l'image de la Russie.
Ouais.
Et s'ils avaient ouvert pendant quelques mois leurs archives, ils se sont empressés de les renfermer.
Ouais.
Et donc, pendant un moment, nous qui étions des historiens de la période cominternienne, des années 30, 40, 50, etc., on a vu ce qui avait été entrouvert se refermer au nom du fait que... Non, vraiment, c'était regrettable. Mais alors, on leur disait, on leur blaguait, on disait, mais ça, c'était pas un régime russe. Et, qui plus est, il était dirigé par un Géorgien. Mais ça ne les faisait pas rire, ça les faisait pas rire du tout. Bon, donc...
Et dit qu'il y a des archives qui n'ont jamais ouvert.
Bien sûr, il y a des... Oui, les archives du Comintern sont en partie ouvertes, mais les archives de ce qu'on appelle les archives de la présidence, c'est-à-dire les archives de Staline, ne sont pas ouvertes.
Non, il y a des fonds Staline ouverts.
Oui, il y a quelques fonds qui sont ouverts, mais pour ce qui est des archives des services secrets, c'est
aucune époque, mais
sauf que les archives du FBI, une grande partie des archives de la CIA, les archives du MI6, du MI5 surtout, et aujourd'hui en France, les archives de la DST et les archives de la DGS, enfin du SDEC, sont en grande partie ouvertes. Bon, mais on va pas
en Russie jamais.
Voilà.
Y compris 150 ans après, hein, vraiment pas.
Voilà. Bon, alors, comment est-ce que ça se passait, ces choses-là? Ça vous a été dit, effectivement, il y a beaucoup d'argent qui a été déversé vers les partis communistes et vers les mouvements révolutionnaires, les mouvements de libération nationale, etc. Un exemple, en Irlande, le Sinn Féin touchait de l'argent du PC. Toucher de l'argent de Moscou, il a touché en quantité considérable. Il faut dire d'ailleurs que la branche, disons, la plus officielle du Sinn Féin n'était devenue autre chose que le Parti communiste irlandais. Alors, vous voyez, j'ai eu la chance, et je ne suis pas loin de terminer, j'ai eu la chance de connaître l'un des hommes les plus importants du PC français, et qui plus est de pouvoir le faire parler quelques semaines avant sa mort, parce que, Auguste Lecoeur. J'étais venu avec une équipe de la BBC, on tournait une série qui s'appelait Les Messagers de Moscou. Et alors, vraiment, j'ai pu faire parler Lecoeur à cœur ouvert, si j'ose dire, de ces questions d'argent. Et alors, je lui dis, en Russie, Ponomarev, donc responsable soviétique de haut niveau, nous a dit, nous n'avons jamais versé un centime au Parti communiste dans le monde. C'est vrai ? Il me dit, allez, avec quoi est-ce que nous aurions vécu ? Des représentants soviétiques ont été arrêtés avec des chèques en poche. Et ça représente beaucoup ce que les soviétiques vous donnaient ? Oui, c'est considérable. Qui voulez-vous qui nous permette d'avoir des locaux, des militants, des machines ? Les socialistes ? Les Américains ? À la deuxième ou troisième réunion du Cominform, je conduis la délégation française, sans Fajon ni Duclos. Au moment de partir, le principal représentant soviétique à cette réunion me remet $50,000. J'y suis avec un Italien qui doit percevoir la même chose. Ensuite, je rentre à Paris et puis j'apporte les $50,000 à Georges Gosna, ex-député d'ailleurs de la Charente-Maritime, qui était le trésorier du PC. Et je dis, ben voilà, c'était pour mes frais de déplacement. Je lui remets l'argent. Il me dit, voilà l'argent que j'ai reçu à la réunion. Il me signe un reçu. C'est tout. Je pars avec le reçu. Évidemment, le reçu, je le déchire. Il n'a simplement qu'une fonction comptable entre nous. Bon. Voilà pour les grandes structures. Mais il faut savoir qu'il y avait d'autres canaux, d'autres interfaces qui permettaient à la Russie, à travers des moyens qui n'étaient pas forcément les communistes, de financer pas forcément des campagnes, mais des organisations à l'étranger, et notamment des réseaux d'espionnage. Et ces moyens, ça a été par exemple les diamants. La Russie est un énorme producteur de diamants. Quand elle voulait financer des réseaux, elle leur donnait tout simplement des diamants, soit des vrais diamants de taille, soit éventuellement de la poussière de diamants qui permettait de faire des outils industriels de découpe. Bon, on a énormément de sources là-dessus et de recoupements sur le fait que la profession des diamantaires, notamment en Belgique et en Hollande, servait justement de réceptacle à ces exportations. Un autre exemple, très rapidement, il y a toujours eu en France une banque soviétique. Elle s'est appelée pendant le plus longtemps la banque commerciale pour les pays de l'Europe du Nord, la BCEN. Bon. Toutes les organisations d'influence, communistes ou pas, avaient leur compte à la BCEN. Et quand vous avez un compte à la BCEN, ça veut dire qu'on peut vous ouvrir un découvert considérable. Voilà. Bon, on pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, ces ingérences, ces influences, ces tentatives de manipulation ne datent pas d'hier. Elles s'inscrivent vraiment dans une tradition. Et cette tradition, elle voulait, par exemple, que, compte tenu du fait que ces organismes étaient financés par l'Union soviétique ou avaient été financés par la Russie précédemment, ils étaient des organismes ressortissants de l'État. Et qu'il y avait donc une continuité territoriale qui s'exerçait entre le centre de décision moscovite et l'intérieur de ces organismes mêmes. Donc, à partir du moment où quelqu'un était dissident, à partir du moment où quelqu'un, ne marchait pas droit, on pouvait très bien se permettre de le liquider. Ça devenait une affaire intérieure à la Russie elle-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que, vous le savez, les pratiques d'élimination dans lesquelles on ne connaît aucune douceur n'ont pas cessé. On en a eu un exemple très récemment avec Prigogine. Voilà, merci beaucoup.
Je reprends juste mes deux minutes la parole avant de la passer à ma voisine. Non, c'est juste, vous voyez, par exemple, on vous parlait des achats de voix, des achats de publicité pour les emprunts russes, etc. Moi, je vais juste évoquer une autre histoire et vous trouverez un article que j'ai écrit là-dessus en accès libre sur Internet. C'est l'histoire de Geneviève Tabouy. Pourquoi c'est intéressant, Geneviève Tabouy? Toi, tu la connais bien, je veux dire. C'était la grande journaliste spécialiste des questions internationales. C'était une dame qui venait d'une famille tout à fait bourgeoise, famille de diplomates, famille d'officiers. C'était une dame qui votait plutôt à droite, qui était à droite. Or, on a les preuves, dans ce petit moment, je dirais, où les archives se sont ouvertes, on a les preuves qu'elle a été financée par la Russie dans les années 30. Où est-ce que ça pose un problème? Ça pose un problème parce qu'effectivement, alors elle n'était pas du tout, elle ne serait jamais allée vivre en Union soviétique, elle n'aimait pas du tout ce pays, elle trouvait qu'ils étaient tous des sauvages, j'ai été lire ses journaux, ses lettres, c'était tous des sauvages, vraiment elle ne voulait pas y vivre. Mais elle acceptait de l'argent pour dire, au bout du compte, il faut les laisser faire. Et c'est allé jusqu'où? C'est aller, vous avez tous entendu parler maintenant de quelque chose dont on ne parlait pas il y a 15 ans, qui est la grande famine qu'il y a eu au début des années 30 dans plusieurs endroits de l'Union soviétique, c'est-à-dire en Russie, au Kazakhstan et en Ukraine, et qui a été particulièrement, le Golodomor en Ukraine, qui a été particulièrement meurtrier, et maintenant on a les preuves qu'il y avait une volonté de mater la paysannerie ukrainienne par la faim. L'Ukraine, c'est un pays, c'est de la terre à blé, c'est la Beauce, l'Ukraine. Vous laissez tomber un grain de blé, vous avez, je dirais, un champ qui pousse. Vous avez au moins 4 millions de personnes qui sont mortes de faim, qui ont bouffé leurs gosses sur ce champ de blé potentiel. Or, on a eu un politicien français qui est allé visiter et qui n'a rien vu. Et moi, pendant très longtemps, Édouard Herriot, qui était le maire de Lyon. Et pendant très très longtemps, j'ai cru que ce Édouard Herriot n'avait rien vu, qu'on lui avait fait justement des villages Potemkin et qu'il n'avait rien vu. Et là, il y a un ouvrage qui a été écrit par une de nos collègues qui travaille en France mais qui est ukrainienne d'origine, où elle démontre sur la base d'archives ukrainiennes que non, il avait tout vu. Et il était accompagné par Madame Tabouy, qui était plus ou moins sa maîtresse. C'est-à-dire que vous envoyez un homme politique qui veut des soutiens pour faire sa carrière et qui va faire une très belle carrière sous la Troisième République. Et partout, vous allez dans Lyon, vous avez la rue Herriot, vous avez l'hôpital Herriot, la station de métro, etc. Il a accepté de fermer les yeux en se rendant sur place sur le fait qu'il y avait des millions de gens qui étaient en train de crever de faim et qui crevaient de faim parce qu'on ne leur donnait pas accès au blé qu'ils produisaient eux-mêmes ou au pain qui était fabriqué à partir de ce blé.
Ils crevaient dans les rues, pas chez eux. Hein, donc,
et ils crevaient partout. Et Madame Tabouy, elle l'accompagnait. C'est-à-dire cette dame respectable avec des colliers de perles et des petits tailleurs, je dirais, qui... elle a continué à faire une carrière sur les ondes et à définir dans son salon, là, en partie, la politique étrangère française, alors qu'elle avait touché de l'argent des soviétiques et qu'elle s'était tue sur quelque chose qu'elle n'a pas pu ne pas voir. Donc, si vous voulez, on n'est pas juste dans, vous voyez, la corruption, l'affluence, etc. On est dans la complicité de meurtre. Et ce qui risque de se passer actuellement, vu les crimes qui sont commis en Ukraine, de nouveau, je veux dire, on va être dans la complicité de meurtre, pas simplement dans « ah ben, vous avez touché un petit billet sous la table ». Donc, on est dans quelque chose, oui, de très, très grave.
Merci. Moi, je vais être très brève parce qu'on a aussi l'idée de vous laisser la place pour poser des questions. Je voulais juste faire un petit retour encore avant au 19e siècle. Alors, il se trouve que je suis littéraire et que je trouve que dans une fac de lettres, on peut parler aussi un tout petit peu de littérature parce que, enfin, tu ne l'as pas fait exprès tout à l'heure, mais tu as dit on pourrait parler de politique aussi, mais peut-être de culture aussi. Mais en fait, si vous regardez aujourd'hui la littérature du 19e siècle, c'est un petit peu, ça a été mon job à un moment donné. Du côté français, vous avez toutes ces traces-là de l'ingérence russe qui se retrouvent du coup pas dans les archives, mais qui se retrouvent dans les textes. Et qui se sont retrouvés à travers un jeu pro-russe, anti-russe, à commencer vraiment par Catherine II, hein, Catherine II qui a quand même acheté la bibliothèque de Voltaire, qui a reçu Diderot. Donc l'idée, c'était déjà de donner une belle image de la Russie, et en même temps, elle se donnait comme quelqu'un de très éclairé, et derrière, elle rétrécissait les droits des, notamment des serfs en Russie. Hein, donc sa politique intérieure a été tout sauf éclairée. Donc ça a continué au 19e siècle. Il y a peut-être un nom, où je vais vous donner deux noms pour rester brève, qui sont Astolf de Custine et Eugène Melchior de Vauguet, qui sont deux figures qu'aujourd'hui on a un peu beaucoup oubliées, je pense que... Bon. Alors, Custine, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle « La Russie en 1839 », qu'il a publié en 1842. Il est allé effectivement en Russie et il est allé voir. Alors, on sait aujourd'hui qu'il était homosexuel, que la Russie avait pris... ah, tu sais pas que la Russie avait pris pratiquement tout ce que possédait son petit ami de l'époque, qui était polonais, qui avait émigré à Paris. Et donc, il est allé d'abord en Russie pour demander qu'on rende à ce comte ses terres, ou qu'on lui rende au moins son argent, et donc il s'est fait renvoyer directement. Donc il était très en colère, et donc il est revenu et il a écrit tout. Là, du coup, il n'y a pas d'ingérence, au contraire, il écrit tout sur la Russie. C'est horrible. Donc voilà, donc c'est un ouvrage qui a fait fureur partout en Europe. Et la Russie a essayé d'écrire contre Custine. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'ont commencé vraiment les envois de gens à Paris, notamment, pour influencer les journalistes, les écrivains. Donc ce livre, à un moment... vous ne pouvez plus écrire sur la Russie de la même façon après 1842. C'est-à-dire, soit vous continuez Custine en disant « je suis critique », soit vous écrivez du contraire, enfin voilà, et là vous avez tous les petits littéraires qui sont payés par la Russie.
Rue Custine à Paris.
En plus. Voilà, donc ça c'est... Alors c'était un personnage scandaleux par ailleurs, hein, qu'on a trouvé ivre sur une rue, endormi, enfin voilà, donc c'était pas non plus quelqu'un
mais
de très présentable.
Il est
très bien son livre, ce sont des lettres, et il est à peu près sûr qu'il s'est fait aider par des Russes à Paris qui l'ont relu, qui lui ont rajouté des faits.
Donc,
alors ça s'appelle « La Russie en 1839 » et c'est sorti 3 ans après, donc en 1842, voilà. Bon, après, vous avez la guerre de Crimée, c'est encore une autre histoire. Là, on peut lire Doré et l'histoire de la Sainte-Russie, qui est une sorte de première bande dessinée. Là aussi, c'est un pamphlet contre la Russie qui s'inspire beaucoup de Custine. Et ensuite, à la fin du siècle, vous avez quelqu'un qui s'appelle Eugène Melchior de Vauguet, qui était marié à une très jolie dame russe, qui est restée plusieurs années à Moscou, notamment. Comme il n'était pas ambassadeur, mais il travaillait pour la diplomatie française. Et lui, c'était quelqu'un de, aujourd'hui on dirait, de très conservateur peut-être, et qui a surtout essayé d'écrire lui-même en France, et qui s'est fait très critiquer notamment par Zola, et donc il en voulait à tous les naturalistes. Alors le naturalisme pour lui c'était l'horreur, c'était pas de la littérature, et donc pour cette raison il a commencé à rassembler dans des articles, beaucoup aidé par sa femme qui donc parlait russe et qui pouvait traduire, un ouvrage, des articles d'abord, puis ils sont devenus un ouvrage après, et ça s'appelle le roman russe. Et ce roman russe, c'est un moment super important. Il est sorti en, alors là, je suis pas exactement, 81, 83, quelque chose comme ça, 1800, hein, toujours, et qui installe les écrivains russes en France. Et ça lance au moment où politiquement c'est très opportun, c'est-à-dire un moment où la Troisième République se cherche un chemin contre l'Allemagne, notamment, hein, contre l'Empire allemand. Et ça lance toute une vague dans un livre critique, il y a une très jolie phrase que Custine a aidé, non pas Custine, pardon, Vauguet a aidé à inonder la France par de l'encre russe. C'est vraiment ça, c'est-à-dire ça lance toute une mode de la littérature russe. Ça fait connaître Tolstoï, ça fait connaître alors un Dostoïevski qui l'a pas du tout compris, mais c'est pas grave, et ça fait encore plus connaître Tourguenev qui était déjà bien installé en France. Et dans cette mouvance-là, donc sur cette mouvance-là, sautent des figures qui sont des influenceurs de l'époque et qui sont en partie payés par l'Empire, et qui sont notamment, donc là on a eu une discussion sur Facebook il n'y a pas longtemps, Juliette Adam, qui est une des figures qui sont à l'époque les gens qui organisent des manifestations pro-russes, qui vont voir des marques pour dire tu veux pas sortir un truc qui fasse russe, donc on sort du savon, la tsarine, etc. Donc ils lancent une mode, et cette mode contribue à installer la Russie dans un imaginaire français, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire la littérature, la culture, les objets du quotidien, ça a une influence énorme. Et donc tout à l'heure, en mangeant, on parlait de Rouletabille chez le tsar. Rouletabille, c'est le reporter imaginaire. C'était le Tintin de juste une dizaine d'années d'avant. Hein, il était archi connu. Alors pourquoi est-ce que Rouletabille va chez le tsar? Parce que son auteur, Le Roux, a eu des sous de la Russie. Et donc va écrire un bouquin pour que ça sort en 1913. On est à un an de la guerre. Donc il sort ce bouquin, et dans ce bouquin, Rouletabille en héros va déjouer tous les nihilistes et ceux qui pourraient porter préjudice au tsar. Et donc les gens lisent ça, c'est de la littérature populaire qui se publie en feuilleton. Les gens se disent c'est chouette la Russie. Et donc tous ces gens, petits gens, des gens normaux achètent des emprunts russes en se disant Rouletabille a réglé le problème. Et vous voyez que la fiction, c'est pas juste la littérature. Voilà. On vous laisse la place. Je suis sûre qu'on a des questions. Merci.
EMF Radio, Science et Culture en partage.